C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On va parler de délestage. Si vous avez vécu du délestage, des chirurgies annulé, reporté à cause de la COVID, ben, écrivez-moi 98985 que j'aimerais vous lire en réaction à l'entrevue que je m'apprête à réaliser. Donc, c'est un mot qui nous est devenu tristement familier avec la pandémie, délestage. Les délais d'attente en chirurgie ont été exacerbés au cours des deux dernières années, on le sait. On parle d'environ 19 000 patients qui sont en attente d'une opération depuis plus d'un an au Québec, selon les données du ministère de la Santé. Et derrière ces statistiques-là, derrière le mot délestage, ben, il y a des visages, il y a des histoires humaines et le témoignage que je m'apprête à vous présenter illustre à quel point les délais peuvent avoir des conséquences importantes, débilitantes sur la qualité de vie de ces personnes qui souffrent en silence. C'est le cas de Suzanne, elle a 86 ans, retraitée en attente d'une chirurgie de la hanche depuis 2 ans. On va parler à sa fille Stéphanie Olivier. Stéphanie, salut!
Bonjour!
Parlez-nous de votre mère, de comment elle allait jusqu'à il y a 2 ans.
Jusqu'à il y a 2 ans, en fait, sa personnalité demeure la même, là, très indépendante, très autonome, vit seule dans sa maison déjà depuis quelques décennies au décès de notre père et du départ des grands-enfants. Donc, c'est une femme qui faisait ses courses, puis donc on parle de, elle avait 84 ans, donc elle faisait ses courses. Dans son milieu, ses transactions bancaires, etc. Bref, parfaitement heureuse dans son milieu adapté.
Donc, heureuse, autonome, fonctionnelle, vivait dans sa maison, tout allait bien.
Tout allait bien. Vous savez bien ce que c'est la vie, hein?
Évidemment,
c'est inégal.
Évidemment.
Absolument. Ma mère a cette faculté-là particulière de savoir, et je pèse mes mots, jouir de la vie. Elle sait vraiment, même dans des circonstances modestes, même dans des circonstances difficiles, savoir embrasser chaque moment de joie. C'est une coquine, elle aime un peu rigoler. Même dans des difficultés pas trop grandes, elle arrive très bien à tirer son épingle du jeu.
OK, et là, depuis 2 ans, ben ça va moins bien parce que sa hanche droite la fait souffrir. Pour préciser, là, sa hanche droite perd de son cartilage de protection.
Absolument. On dit que c'est rendu fer sur fer, hein?
Oui.
Alors, faut imaginer justement là que ça frotte. Hein, c'est la hanche. Imaginez une boule hein, qui permet la rotation de la jambe. Et là, ça frotte os sur os là depuis 2 ans, peut-être même un peu plus. C'est seulement il y a 2 ans qu'elle a accepté, dans le fond, c'était se plaindre hein, d'être sur une liste d'attente pour changer une hanche.
Et là, écoutez, votre sœur a envoyé une lettre à la presse qui racontait l'histoire de votre mère. C'est un très beau texte. Et là, ça brise le cœur parce que en attente d'une chirurgie, votre mère se traîne littéralement entre les 4 paliers de la maison. Là. Puis vraiment, là, ce qu'elle mange est devenu simple. C'est une douleur qui est de tous les instants, si je comprends bien.
Oui, en fait, même tout à fait dernièrement, on pourra en rediscuter parce qu'il y a eu des développements. Elle perdait plusieurs livres par semaine. Elle perd présentement du poids. Et ça, ça devient dangereux. Alors, comme vous dites dans le texte de ma sœur, qui est effectivement très doux, très reconnaissant envers cette femme-là, c'est un bel hommage. Elle explique que ma mère vit dans ce qu'on appelait un split level.
Mm-hmm.
Hein? C'est une maison à plusieurs étages, donc il y a environ 5 marches entre chaque palier et il y a 4 paliers. Et Suzanne, ben vous allez me dire, si elle arrive à vivre encore dans cette maison-là, c'est que ça doit pas être si mal.
Mm.
Non. Nanny, elle avance 6 pouces par 6 pouces.
Mon Dieu.
Et elle pleure parfois. Et Suzanne, c'est vraiment pas une braillarde. Elle pleure entre le salon et la cuisine.
OK. Là, si je comprends bien, votre mère a eu un rendez-vous pour une chirurgie, mais c'est pas dans sa région. Elle est dans Lanaudière.
Nous, on est de ce qu'on appelle, je vais vous parler en jargon, il y a des gens qui vont comprendre. Nous sommes dans le CRDS ici, là, à Montréal, CRDS 3L, Laval, Lanaudière, Laurentide. CRDS, ça veut dire Centre de répartition des services. Alors, tout médecin de famille, partout au Québec, doit inscrire son patient. C'est pas lui qui décide, là, qui, quand est-ce que va voir un orthopédiste. C'est un CRDS par région qui détermine d'abord la priorité pour ne serait-ce que rencontrer un orthopédiste. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est à s'inscrire dans deux CRDS, parce que celui de Trois-L, Laval, Lanaudière et Laurentide, est surchargé. C'est l'un des plus surchargés. Et on a réussi à recevoir un appel à un moment donné pour aller rencontrer un orthopédiste, mais dans Chaudière-Appalaches.
Dans Chaudière, donc votre mère qui habite dans Lanaudière va devoir aller genre dans Charlevoix.
C'est pas Charlevoix, dans Chaudière-Appalaches, c'est au sud. Dans le fond, c'est comme la côte du sud. Non, c'est en allant vers le Bas-Saint-Laurent. C'est juste à la porte. Ça, okay. En fait, là où on va, on est vraiment à la porte du Bas-Saint-Laurent, mais c'est administrativement dans Chaudière-Appalaches.
À combien d'heures de route?
Alors, par exemple, moi, j'habite à Québec. Hein? Mm-hmm. J'ai fait ma vie à Québec. Je pars de Québec, je vais chercher ma mère à Repentigny et on part ensuite ensemble à Montmagny. Donc, c'est environ 3h30. Oups! C'est environ 3h30 de route vers l'est.
Wow! Donc, c'est là que votre mère va être opérée, finalement?
Oui, c'est là. Et ça a demandé plusieurs déplacements. Parce qu'il y a des examens préopératoires, il faut rencontrer la physiothérapeute, il faut rencontrer l'infirmière, puis je suis certaine qu'il y a certains de vos auditeurs que pour eux, ça sonne là, très familier, là, tout ça.
Est-ce que vous vous dites, bon, c'est mieux que rien, ou vous vous dites, ça n'a pas de sacré bon sens?
Ah, non, juste ce bout-là, c'est même pas grave. Ce que je trouve qu'il y a pas de sacré bon sens, c'est que ça prend quelqu'un qui a une détermination du tonnerre là, pour arriver juste à ce résultat-là. Nous n'avons pas eu de rendez-vous satisfaisant en orthopédie dans le CRDS qui est dans sa région. Celui que nous recevons, ben ma foi, je suis contente, je suis capable de me déplacer, je suis capable de me libérer au bon moment, etc. Alors, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est ceux qui n'ont pas cette énergie-là,
évidemment,
ou qui ne connaissent pas nécessairement les dédales. Il a fallu que je m'informe,
et qui n'ont pas deux filles comme vous et votre sœur pour les aider.
Absolument.
Écoutez, lâchez pas. Salutations à votre mère. On salue sa résilience. Puis bonne chance pour l'opération.
Merci.
À la prochaine.
Au revoir.
C'était Stéphanie Olivier, vous l'avez entendu, fille de Suzanne Charland, 86 ans, en attente d'une chirurgie à la hanche depuis 2 ans. On lui a trouvé une salle d'opération, une date d'opération, mais ça va se passer à 3h30 de chez elle.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
François Audet, qui est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Papier très intéressant dans le journal Le Devoir aujourd'hui sur les exactions qui sont commises par les forces russes en Ukraine. Il semble que ce soit pas du tout surprenant pour ceux qui suivent les actions de l'armée russe depuis quelques années. François Audet, salut!
Oui, bonjour Patrick.
François, en quoi c'est pas surprenant de constater ces exactions, ces crimes supposés contre l'humanité en Ukraine?
Déjà, c'est surprenant de se poser la question, à savoir si c'est surprenant. La Russie, depuis, je dirais, plusieurs années, là, je pourrais pas donner un chiffre exact, mais quand on observe la manière dont l'armée russe s'est comportée en Syrie, la façon dont l'armée russe, et surtout aussi la milice Wagner, hein, qui appartient à des oligarques russes, se comporte en Afrique, on sait que la semaine dernière, il y a eu 300 civils qui ont été massacrés, notamment par le groupe Wagner au Mali. Donc, c'est des comportements qui sont largement recensés, qui sont documentés et qui façonnent la manière dont ces belligérants-là vont se comporter, vont respecter ou non les règles de la guerre et surtout les civils. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a un pattern très, très clair au fil du temps dans les conflits récents.
Mais quand on parle de pattern, là, de façon de faire récurrente qui reviennent tout le temps, le lien entre, disons, la Syrie, parce que les Russes ont combattu en Syrie pour maintenir le dictateur Bachar el-Assad, et ce qui se passe en Ukraine, c'est quoi? C'est quoi les patterns?
Ben, les patterns, en fait, de manière un peu plus générique, ce qu'on observe, c'est clairement des attaques sur des cibles civiles. Donc, de manière délibérée, on n'a pas affaire à des dommages collatéraux comme parfois les alliances occidentales vont décrire. Dans ce cas-là, c'est clairement délibéré. Puis on voit avec les images clairement sur ce qui se passe en Ukraine actuellement. Donc, on va s'attaquer aux infrastructures civiles, aux écoles, aux maisons, aux hôpitaux, aux intérêts et aux convois humanitaires aussi. Et cette manière de faire-là fait partie de la stratégie militaire de démoraliser, de démobiliser les civils et de faire une pression politique sur les dirigeants et justement pour démontrer qu'ils n'ont pas de pitié finalement au bout du compte et qu'il n'y a aucun respect des règles de droit.
François Audet, je veux pas faire de fausses équivalences, ok, pas du tout, mais je veux qu'on réfléchisse à voix haute là-dessus. Les forces américaines en Irak en ont commis des exactions. Il y a des soldats qui ont tué puis qui ont violé des gens en Irak. Il y a des Afghans qui ont été tués pour aucune bonne raison. La différence entre les actions américaines dans ces deux pays puis ce que font les Russes en Ukraine, c'est quoi?
C'est une excellente question et même ce qu'on peut imaginer que les Ukrainiens peuvent faire par exemple avec les prisonniers russes aussi aujourd'hui. La guerre c'est le pire de l'humanité et peu importe les époques et vous avez tout à fait raison de le dire, l'Occident, les pays de l'OTAN, les alliances, peu importe comment on va les appeler au fil des guerres, ont commis aussi des crimes contre l'humanité, ont commis des bavures. Je voudrais que la différence, s'il en est une, et c'est ça sur quoi est bâtie notre société et notre modernisme, hein, c'est une tentative de respecter ces droits-là, de les documenter, de les dénoncer, et ultimement, et on sait que c'est déjà arrivé quand même, qu'il y ait de l'identification des responsables de ces crimes-là, des viols, des meurtres, ou du non-respect des infrastructures civiles ou humanitaires. Mmh. On l'a vu beaucoup en Syrie. Cela étant, il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de chefs d'État qui vont aller en prison ou qui vont être sur le CPI au Tribunal pénal international, mais c'est rapporté par des médias, c'est décrié par la société civile et ultimement, oui, il y a eu des militaires qui ont été tenus responsables, notamment de crimes commis sur des civils.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie de la part des Américains qui dénoncent, à mon sens, à bon escient, là, à bon droit, des exactions, des potentiels crimes contre l'humanité, mais les militaires américains sont pas soumis à des instances comme la Cour pénale internationale.
Ben, l'hypocrisie, il y a plusieurs guerres dans une guerre et cette guerre-là, comme on dit souvent, est probablement la plus intensément politique et de communication, puis vous en savez quelque chose. Donc, la guerre de la communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'Ukraine et ses alliés de démontrer que c'est manichéen, hein, donc qu'il y a un bon et qu'il y a un méchant, et qu'on fait une construction sociale de cette nature-là, et ça nous arrange bien, ça nous conforte dans nos postures personnelles et sociétales, mais c'est clair que on a des responsabilités dans ce qui se passe en Russie, tant dans notre immobilisme actuel que dans l'immobilisme des années passées également, ou dans ce qu'on aura commis ailleurs, qui a créé cette guerre froide qui continue à exister, puis qui était latente, et que tôt ou tard, effectivement, c'était le risque que ça dégénère, comme on l'observe, arriver. Alors, hypocrisie, je sais pas, je crois que c'est de l'attentisme, c'est de peut-être aussi un peu... on est réconforté sur dans notre Occident, pensant que tout le monde respecte les règles du jeu. Et là, on est surpris malheureusement de voir les choses arriver, alors que c'était écrit dans l'histoire que ça allait se reproduire.
Est-ce que je me trompe ou il y avait une certaine utopie au début du conflit? C'est un conflit qui est ultra photographié, ultra filmé par des citoyens qui mettent ces documents-là sur les médias sociaux. Et on parlait de guerre TikTok, hein, et les Ukrainiens ont l'avantage. On gagne la guerre des médias sociaux, de l'image. Mais là, rendu presque au jour 50, je veux dire, la guerre, c'est la guerre et l'image, c'est l'image. Puis c'est pas parce que tu gagnes la guerre de l'image que ça va mieux sur le terrain.
Non, effectivement, mais la guerre d'image, elle se continue. Vous suivez, si les auditeurs suivent un peu ce qui se passe sur Twitter, sur Instagram ou TikTok, on peut suivre en temps réel littéralement ce qui se passe sur le terrain, mais avec le récit, le narratif qu'on nous donne aussi. Alors on se fait largement influencer parce qu'évidemment le narratif il est pas russe, hein, il est pas de l'autre côté, il est celui qui nous conforte également. Donc voilà, mais l'élément que vous soulevez dans votre question qui est intéressant, c'est la fatigue de la guerre, c'est le moment où et ça va arriver malheureusement, où on va devenir blasé, hein, où ça va devenir un autre conflit qu'on va perdre un peu de vue, qui va devenir à la deuxième, troisième page, voire plus loin dans les grands médias, et qu'on va seulement rappeler en disant, ben voilà, tel événement, tel incident, parce que le conflit risque de perdurer. Et plus le conflit perdure dans le temps, pire ça sera pour les civils. Et en tout cas, personnellement, moi, c'est ma posture d'humanitaire qui parle. C'est là où, peu importe ce qu'on voit, il faut toujours se rappeler que les principales victimes dans ce conflit-là, c'est la population ukrainienne, ça c'est clair, et qu'il faut tout faire, ici comme ailleurs, pour protéger, respecter les droits de la guerre, pour que les civils puissent sortir, avoir accès à la protection des humanitaires, et que la diplomatie fasse son travail pour arrêter le conflit le plus rapidement possible.
Toujours un plaisir, merci François Audet.
Ça m'a fait plaisir, au revoir.
Salut Monsieur Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Laurent Turcot, c'est un véritable pédagogue populaire. Il enseigne l'histoire dans ses cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières et il utilise des moyens de communication modernes pour sortir l'histoire de ses salles de classe. Sa chaîne YouTube est hyper suivie par 375 000 personnes. La chaîne s'intitule « L'histoire nous le dira ». C'est aussi le titre de son plus récent livre. Salut Laurent!
Bonjour, ça va bien?
Oui, toi aussi j'espère. Écoute, le livre porte sur ce qui a fait le Québec d'aujourd'hui, de sa langue en passant par les loisirs, les plats par exemple. Ouais. On va commencer par la langue. C'est le début du livre. En quoi notre accent est unique et aussi le reflet de notre histoire?
Ben, c'est ce qui nous définit. À chaque fois qu'on s'en va dans les pays francophones, en France par exemple, on nous dit « Oh, vous avez un accent! » La méchanceté voudrait qu'on réponde par « Vous aussi, vous en avez un. » Mais on l'oublie, ça. On a une insécurité linguistique par rapport à notre accent. Puis pourtant, les mots sont tellement imagés, tellement parfaits, j'ai envie de vous dire, juste les sacres. En France, oui. On jure, c'est-à-dire enfin, des jurons. Ici, on jure pas, on sacre les calices. Hostie tabarnak, pardon Patrick, c'est pour les auditeurs, mais ça fait partie quand même de la culture.
C'est tellement le fun à dire.
Merci pour le contexte.
C'est très satisfaisant. Hein? Puis d'ailleurs, les sacres, je sais pas si vous savez, mais quand on subit une douleur quelconque, là, quand on sacre, ça permet d'endurer encore plus longtemps cette douleur-là. C'est un côté analgésique. Mais au Québec, c'est un côté identitaire très fort. Mais on sait pas d'où ça vient. Comme on sait pas d'où vient l'accent, qui sont les cadres essentiels. Puis tu sais, on disait, c'est les marqueurs culturels au Québec, on se demande qu'est-ce qui fait le Québec. Il y en a qui vont dire, oh, c'est le territoire, c'est la politique, c'est les grands événements. Oui, mais pas que. Tu sais, quand on va ailleurs, on se dit, ah, nous autres, c'est la poutine, on a des accents, on aime le sirop d'érable, on a des casse-croûtes, mais on n'est pas capable de dire d'où ça vient. Puis je me dis, peut-être ça serait bon de le savoir, de dire pourquoi on sacre, pourquoi on a un accent. Puis c'est pour ça que j'ai voulu faire le livre.
Mais justement, c'est ça, t'en parles, tu parles de... Bon, l'accent, là, il y a un mystère là-dedans. Puis comme tu dis, tout le monde a un accent après ça. Est-ce que vient de telle région de France? Puis tu déconstruis que non, c'est pas du vieux français du 17e siècle. Là.
Non, mais ça, en même temps, faut rappeler qu'on est dans un rapport colonial. La France a l'impression qu'elle a tout inventé puis qu'on est ses rejetons et qu'on serait une sous-langue du 18e siècle et que quand on fait des bons coups, c'est parce qu'on est français. C'est plus compliqué que ça. En fait, c'est à la fin du 18e siècle, la Révolution française, on s'est dit, on va unifier la langue. Donc, tout ce qui n'est pas du français normalisé, c'est une sous-langue. Et ici, au Québec, pendant ce temps-là, ben il y a les Britanniques. Et il va avoir le rapport Durham après la rébellion des Patriotes. Et on va dire grossièrement, les Canadiens français, vous n'avez pas de langue, vous n'avez pas de culture, vous n'avez rien, on va vous assimiler. Et pour preuve, vous ne parlez pas français, vous parlez ce qu'on appelle le French Canadian patois. Et là, il va y avoir des gens au Québec qui vont dire, il faut changer notre langue. Et c'est là qu'on va voir au Québec deux registres de langue. Ce qu'on appelle gentiment le français international et le français qu'on parle de tous les jours. Puis c'est comme si on avait honte d'assumer notre côté très marqué dans l'accent. Puis c'est pas pour rien que les téléjournaux à gauche et à droite, on se dit, mais qui parle comme ça? Puis à un moment donné, il faut être capable de le prendre comme une espèce, pas d'étendard, pas d'être fier, mais voilà comment on parle. Puis ça a été mêlé avec l'anglais, ça a été mêlé avec plein d'accents. Puis est-il besoin de le rappeler que Il n'y a pas un accent au Québec, il y en a plusieurs. Puis ça serait faux de dire que l'accent de Montréal, c'est celui partout. Moi, j'ai un accent de la ville de Québec, je l'assume, comme je le dis dans le livre, comme j'assume que le but d'Alain Côté est bon. Je sais pas si MC est encore en studio, mais ça, c'est une vérité, puis je pense qu'on s'entend là-dessus.
Mais Laurent, c'est aussi le débat sur le joual, le fameux débat où on savait pas si on assumait notre joual ou non, là.
Ben, c'est tout le débat qui a entouré la pièce de Michel Tremblay en 1968 pour revenir là-dessus. Aujourd'hui, on parle plus de joual comme tel, c'est plus porté comme un étendard. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on porte comme un étendard, c'est le fait français qui, dit-on, est contaminé par l'anglais. Mais il l'a toujours été et il s'est préservé.
Ça, Laurent, c'est fascinant dans ton livre. C'est pas nouveau, ça, l'épouvantail de l'anglais comme menace je veux pas dire menace de disparition, mais comme menace qui va polluer, entre guillemets, le français.
Oui, ben prenons un exemple. L'orge, par exemple. Quand on parle de l'orge, on l'appelle l'orge. Oui. Sauf que quand les sacs arrivent au 19e siècle, c'est en anglais, c'est écrit « barley ». Donc, on dit « m'a de prendre une soupe au barley ». Tout le monde sait ce que c'est. Et pourtant, c'est simplement qu'on s'est adapté à, comme on dit, à l'opposant, au conquérant.
On l'a même francisé, on disait « barley ». Une soupe au barley.
Oui, exactement, exactement. Puis en même temps, c'est sûr que le problème qu'on a en français versus l'anglais, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'Académie française. L'Académie française nous dit comment bien parler, et si on ne respecte pas la chose, ben ce n'est pas français. Combien de fois on est allé en France pour se faire dire qu'on voulait du beurre, et là on dit « Ah, du beurre !» avec un accent un peu condescendant là, au SS-117 en se faisant juger. Merde! À un moment donné, là, on parle français, soyez heureux. Grâce à nous, on a une loi 101. Grâce à nous, on n'est pas colonisé comme vous l'êtes par l'anglais où on va dans les McDo puis on parle de potatoes. À un moment donné, calmez-vous.
Laurent, tu parles, tu viens de dire merde à la française.
Ben oui.
Dans le chapitre sur la langue française, il y a une section sur nos sacs. T'en parlais tantôt. Christ, tabernacle, calice, etc. Nous, on est dans le patrimoine religieux. Les Français sont dans le scatologique et la sexualité. Ouais. Merde, enculé, enfant de pute, etc. Ça dit
ça
quoi
fait
sur
du bien
nos,
dire, hein?
Oui, ben, c'est, toujours. Mais ça dit quoi sur nos tabous, nos différences?
Ben ça, c'est intéressant parce qu'il y avait un article dans le Courrier international dernièrement qui disait « Comment ça se fait que les Québécois continuent à sacrer avec des mots d'église alors qu'ils ne sont plus religieux? » C'est parce que faut remonter au 19e siècle, il y a une alliance entre l'État et l'Église qui faisait que l'Église était tellement puissante qu'invoquer injustement le nom de Dieu, donc jurer dans les 10 commandements, c'était insulter et s'en prendre à l'État. Donc, les deux se sont croisés. Donc, quand les gens sacraient à la fin du 19e siècle, quand on a commencé à dire tabarnak ou calice ou esti, ça c'est dans les années 1920, on s'attaquait certes à l'Église, mais pas que, à tout ce qui faisait les bonnes mœurs. Et encore aujourd'hui, l'Église est plus là, a foutu le camp, mais les mots gardent leur sens parce qu'ils ont été arrachés à l'Église pour devenir des cadres de transgression. Et c'est pas pour rien que des jeunes, en début vingtaine, continuent à sacrer. Et c'est pas pour rien quand on entend les choses, puis probablement que les auditeurs qui nous entendent se disent ils disent des pas beaux mots. C'est parce que ça a été inclus que le social et le religieux vont de pair, puis aujourd'hui, il n'y a que le social.
Et j'ai été surpris d'apprendre dans ton livre que les pouvoirs publics, à un moment donné, ont tenté d'enrayer la manie de sacrer.
Ah oui, il y avait des affiches « Ne sacrez pas, ça va vous coûter 40 $ sauf que dans les camps de bûcherons, on organisait des concours de sacs.
Hein?
Et ça, je pense qu'on devrait en refaire. On fait des slams aujourd'hui, mais il me semble qu'une bonne bordée de sacs. Il y a des dictionnaires au Québec, des dictionnaires de jurons. On en trouve 2000. Bon, il y a des déclinaisons. J'en donne à m'amener pendant une page toutes les déclinaisons. Tabarnouche, cliff, criff. Moi, je sais, je viens de Québec. On disait pas criss, on disait criff. C'est assez classique. Puis on voit, il y a des régionalistes
Laurent,
de ça.
Laurent, on conjugue aussi. Parce qu'on dit hostie de calice et, tu sais, on les mêle ensemble.
Bon cop, bad cop.
Ouais, tout exactement.
Est là. Quand Patrick Huard nous l'explique, là, je le cite dans le livre, tout est là. On peut en faire un verbe, un adjectif, un nom commun. Puis en même temps, je me dis, hey, c'est beau quand même, c'est riche. Puis il y a une télésérie qui a été faite sur Netflix sur les sacs, plutôt les jurons anglophone qui est tiré par Nicolas Cage, toujours dans la nuance Nicolas Cage, et on l'écoute, puis on se dit, hey, c'est pauvre comme langue par rapport à nous. Puis comment ça se fait que nous, on les prend pas comme des étendards un peu, puis se dire, faudrait comprendre d'où ça vient. Puis le but de ce chapitre-là, c'est de dire, c'est neuf les sacres, c'est pas avant la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Avant, on disait par exemple, j'arnie Dieu, qui voulait dire en ancien français, je renie Dieu. tête de Dieu, pied de Dieu, etc., etc. C'était toujours en invoquant la figure de Dieu. Mais, puis on s'est spécialisé à la fin 19e.
Oui. Est-ce que c'est unique à nous? Parce que c'est les langues qu'on connaît, l'anglais, ce sont des mots sexuels. Le français de France, ce sont des mots sexuels. Est-ce qu'il y a juste nous qui sacrons en religieux?
Ben, les autres qui nous ressemblent un petit peu là-dessus, c'est pas inintéressant, ce sont les Espagnols qui aussi ont été trempés dans la religion. Le catholicisme a fait beaucoup, surtout au 15e siècle, on le sait, il y a eu beaucoup de divisions avec les Juifs, les Arabes. C'est comme si à un moment donné aussi c'est devenu l'association de l'État et de l'Église. Donc il y a un parallèle entre nous et les Espagnols, puis pas juste dans la manière de manger à Barcelone, à Montréal, à 2h du matin.
OK, parlant de manger, le pâté chinois. OK, il y a des il y a des gens qui disent que c'est le mets national. En 2007, le Devoir a fait un concours, puis le mets québécois, semble-t-il, qui nous cerne le mieux, c'est le pâté chinois. Je veux que tu nous dises d'où vient l'appellation pâté chinois.
Eh bien là, on me demande de voler mon punch de chapitre. C'est pas cool.
Ah, je suis désolé. On vend les punchs dans cette émission.
Mais ça me donne le goût de l'acheter pareil.
On va détruire quand même le mythe. Le mythe voulant que c'était les travailleurs chinois qui travaillaient sur le chemin de fer canadien qui auraient mangé de la viande, qui auraient fait un pâté dit chinois. Et l'école portait énormément cette légende-là et elle est fausse. C'est un historien, c'est Jean-Pierre Lemasson qui a fait un livre magnifique qui s'appelle « Le mystérieux pâté chinois ». Et lui, la conclusion à laquelle il en arrive, parce que des fois l'histoire on la connaît pas, c'est que on le sait pas. Il y a plein de théories la plus probable. Oui, mystère et boule de gomme, mais ça viendrait peut-être d'une ville qui s'appelle China en Nouvelle-Angleterre, où des Canadiens français ont immigré, faisaient une sorte de shepherd's pie ou hachis parmentier, si vous préférez. Mm-hmm. Ça serait revenu ici, ils l'auraient appelé pâté chinois. Ça se perd dans les méandres de l'histoire. Les voies du Seigneur sont impénétrables.
Laurent, tu rends l'histoire fascinante et ta chaîne YouTube, ta popularité comme chroniqueur, comme auteur aussi en témoigne. Est-ce que tu trouves qu'on s'intéresse assez à notre histoire?
Ben, c'est sûr que si tu demandes à un cuisinier est-ce que les gens mangent bien, ils vont toujours te dire non. Si tu demandes à un historien est-ce que les gens connaissent bien leur histoire, je vais répondre non. Sauf que est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Est-ce que ça serait bien qu'on connaisse d'où vient le « je me souviens » ? Oui, quand même la devise. Puis peut-être que ça nous éviterait de refaire certaines erreurs. Je dis ça parce qu'il y a un chapitre dans le livre où j'ai reçu les commentaires les plus violents, parce que c'est une vidéo que j'ai tirée au départ, sur les émeutes anti-vaccins de 1885, où je racontais comment les Canadiens français refusaient le vaccin, voulaient rien savoir, que c'est le maire Honoré Beaugrand qui a envoyé l'armée sortir les enfants des maisons pour les forcer à se faire vacciner. Les gens ont attaqué l'hôtel de ville, une espèce de 6 janvier encore all over again. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on connaît pas cette histoire-là? Puis c'est peut-être aussi de se rappeler que notre histoire, elle est riche, elle est puissante, puis elle mérite d'être connue. Puis surtout, des fois, il y a plein d'éléments qu'on connaît pas. Toute l'histoire autochtone qui en ce moment est en train de revenir sur la scène, on la connaît pas. Puis à un moment donné, faut prêter l'oreille. Puis ce que j'aime dans l'histoire, c'est que c'est jamais fini. On en apprend tous les jours et moi le premier.
C'est toujours intéressant de t'écouter parler de notre histoire, de nos racines. Merci beaucoup, Laurent. Bonne chance avec le livre.
Merci à vous. Bonne journée.
Salut, à la prochaine. C'était Laurent Turcot, l'historien. Son livre qui vient de sortir s'intitule « L'histoire nous le dira ».
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
J'aime les oiseaux.
Yann Perrault, c'est pas une tentative de réhabilitation, on chantait vraiment une... on cherchait une chanson d'oiseau.
Non, mais...
Salut Pierre!
Non, j'ai bien aimé la chanson de toute façon.
Gris-Gris, suite se fait entendre, se manifeste. Comment va Gris-Gris?
C'est évidemment, il sait, c'est l'heure, hein, et voilà. Et, en dépit du temps sombre, d'ailleurs, parce qu'habituellement... C'est une chanson d'Isabelle Pierre à propos.
Est-ce que je peux poser une question à Gris-Gris?
Habituellement, il répond pas aux questions.
Non, mais attends, on va essayer. Gris-Gris, qu'est-ce que tu penses de Lorena McKennitt?
Ah, ça, il doit l'aimer parce que ça joue assez souvent ici. Il est peut-être tanné, d'ailleurs, à une certaine époque. Oui, il doit être tanné.
Mais Pierre, la dernière fois, j'ai reçu plein de messages. Les gens, en micro, j'ai pas rêvé. Gris-Gris peut chanter la chanson de Star Wars et un paquet d'affaires, là.
Oui, ben, il peut chanter. Il peut fredonner un petit bout de Star Wars. Oui, effectivement. Hein? Là, je pourrais pas lui demander comme ça. Faudrait que je commence, mais j'ai pas moi-même, j'ai pas le talent qu'il a.
OK. On va parler justement du chant des oiseaux, Pierre. Là, ça peut être à la fois cri de guerre, revendication, intimidation et aussi hymne à l'amour. On va commencer avec le cardinal rouge.
On va entendre dès en partant le cardinal rouge. C'est très commun à Montréal, mais c'est d'un beau chant. Vas-y, allons-y.
Oh, c'est l'été, ça. Là.
Je le reconnais. Mmh. Je le reconnais.
Ça commence. Souvent, des fois, mars, fin, quand les beaux jours de février ou encore en mars, déjà, ils commencent à se laisser aller. D'ailleurs, c'est l'imitation par excellence de Gris-Gris. Je peux peut-être y demander, d'ailleurs. Gris-Gris fait le cardinal. C'est pas pire, par exemple.
C'est extraordinaire. Extraordinaire. Hey, il paraît que c'est un animal là, vraiment intelligent. Il y a quelqu'un qui m'écrit en direct là. Le cardinal revient chaque année au même arbre, semble-t-il.
En fait, il revient pas chaque année au même arbre. C'est pas tout à fait précis. C'est que le cardinal est sédentaire, c'est-à-dire qu'il reste toujours dans le même point à l'année longue. C'est pas un migrateur.
Okay.
Bien, ça dit, c'est pas un migrateur. Là, par exemple, je veux aborder mon topo.
Oui.
C'est le chant des oiseaux. Pourquoi parler du chant des oiseaux? Parce qu'effectivement, ils sont déchaînés ces temps-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que les oiseaux n'ont pas de corde vocale comme nous autres. Absolument pas. Donc, ils ont une cavité qu'on appelle le syrinx. C'est exclusif aux oiseaux. C'est comme un élargissement de la trachée. C'est une case de résonance qui est cartilagineuse et les oiseaux, ils font vibrer les muscles élastiques qui sont là-dedans. Ils font vibrer ça en expirant l'air et c'est ça que ça donne le chant. C'est plus fort que ça. Un oiseau peut chanter le bec fermé, les narines, le bec, les narines, la gorge ont à peu près absolument très, très mineur dans la production de son. D'ailleurs, ils peuvent, comme je le mentionnais, ils peuvent chanter le bec fermé ou en mangeant. Et plus encore, il y a certains oiseaux qui peuvent chanter, tiens-toi bien, peuvent chanter, parce que le syrinx, c'est deux cavités, ils peuvent chanter deux sons distincts en même temps.
Wow. Alors,
en d'autres termes, Patrick, tu pourrais animer deux émissions d'une seule voix.
Ben, wow. je vais te dire, des fois, je suis pas loin de ça, Pierre. mais oui. pourquoi les oiseaux chantent?
Ben, les oiseaux chantent pour une seule et unique raison, en fait. C'est pour démontrer qu'ils sont chez eux. En fait, il y a deux types de cris. En fait, il faut distinguer le cri et le chant d'oiseau. Le cri, lui, on entend souvent un cri, c'est souvent très bref, et ça sert à déclencher une alerte, à intimider les adversaires. Et c'est ce qui est fort aussi parmi les oiseaux, c'est que si tu as un merle qui est énervé puis lâche un cri, mais plein d'autres espèces d'oiseaux autour vont répondre aussi à cette alerte et vont se sauver. Mais les chants, règle générale, le vrai chant d'oiseau, lui, est beaucoup plus complexe et plus harmonieux à notre oreille. En fait, c'est une sorte de sérénade qui regroupe plusieurs notes, des notes très élaborées.
Comme on le voit en ce moment. Ouais.
Oui, c'est ça.
Comme on
ça.
L'entend.
Là, il rit, il vient de rire de nous. Et c'est regroupé en forme de phrase et ça peut durer, en fait, la mélodie dure quelques secondes, mais elle peut être répétée des centaines de fois dans une journée, puis il y a même des statistiques là-dessus. On a un bruit chanteur qui a chanté 2300 fois, il a répété 2300 fois la même tune au cours de la journée. On parlait tout à l'heure du cardinal, mais le cardinal, il y a à peu près 15-20 chants. Le bruit chanteur dont je viens de te parler, il y en a vraiment plusieurs dizaines. Là, j'aimerais ça qu'on entende, par exemple, la griffe des bois. Pourquoi la griffe des bois? Je vais t'expliquer ça dans les secondes.
C'est très joli, Pierre.
Ouais, la griffe des bois, pourquoi je mentionne la griffe des bois? Parce que c'est le chant par excellence de la forêt québécoise ou la forêt nord-américaine. Il n'y a pas un documentaire, parce que quand on fait un documentaire, c'est souvent les images sont silencieuses, c'est comme je dis, mais on colle toujours la fameuse voix ou le fameux chat de la griffe des bois, et c'est extraordinaire, on voit ça dans les documentaires ou même dans les films. J'en reviens aussi à notre chant d'oiseau, mais le chant d'oiseau, lui, quand il chante, là, c'est pas pour te faire plaisir, c'est strictement pour dire, écoutez, ça, c'est mon territoire. C'est une forme d'intimidation, c'est une forme de revendication territoriale, et par, curieusement, c'est un chant qui est aussi une sérénade amoureuse parce que ça charme les femelles. Et plus encore, plus un oiseau dont le chant est élaboré, dont le chant est beau, entre guillemets, la beauté, c'est pas une chose qui la détermine, mais dont le chant est agréable, mais plus il y a des tonnes aussi, mais plus les femelles vont succomber à la tentation.
C'est vraiment intéressant. OK, parle-nous maintenant des pics, les pics bois.
Les pics-bois, c'est une autre façon de délimiter leur territoire. C'est ce qu'on appelle le tambourinage. Puis, au printemps, on voit ça. C'est au printemps qu'on voit ça. D'ailleurs, comme les chants, les oiseaux chantent surtout au printemps. À la fin de la reproduction, ça arrête beaucoup. Mais au printemps, on a aussi les pics-bois qui arrivent, les pics qui arrivent du sud. Eux, puis les pics qui sont locaux aussi, vont commencer à tapocher. D'ailleurs, on va l'entendre, tu vas voir. Ça, c'est le cri.
Ça, c'est le cri, OK? Puis là, on a le bruit du tambourinage.
Je ne voulais pas le tapage.
On l'a-tu, Max? Non, on ne l'a pas, désolé.
Pas le tapage.
Je peux faire un reenactment, là.
Mais attends.
De façon très, comme une mitraillette, si je peux dire. C'est vraiment incroyable. C'est très, très rapide. Puis il va faire ça sur des panneaux d'aluminium. Encore les panneaux d'arrêt stop qu'on voit au coin des rues. Il va, mais là, ma foi, il arrête pas. Ils vont taper là-dessus. Et c'est un son vraiment strident. C'est pour que ce soit le plus fort possible. Donc, ils vont taper soit sur des troncs d'arbres creux, et sur de l'aluminium, comme je t'ai mentionné. Puis ça aussi, c'est le rôle essentiel, c'est d'aviser les autres oiseaux, les autres pics du bout, si on peut dire, que ça, c'est chez nous. N'avancez pas. Et l'avantage du tambourinable, l'avantage des chants d'oiseaux, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se battre pour déterminer qui est le plus fort, parce que celui qui chante le mieux, le plus fort, le plus élaboré, souvent, c'est le mâle dominant.
Et Pierre, quand l'oiseau veut faire son territoire, le territoire a quelle superficie?
Ça varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Ça peut être très, très restreint comme très, très grand. Mais règle générale, c'est quelques kilomètres carrés. Dans les milieux urbains, c'est quelques kilomètres carrés. Mais tu peux avoir des fois dépendant. Aussitôt qu'ils vont traverser souvent leurs limites imaginaires, ben, les autres oiseaux ou l'autre merle, mettons, si on parle des merles, va commencer à réagir. Puis il va commencer à chanter bruyamment pour dire « Oups, oups, mon vieux, là, tu viens d'aller un peu trop loin. »
Les animaux peuvent devenir agressifs là, pour des questions territoriales. Est-ce qu'on sait si les animaux se battent? Les oiseaux se battent?
Oui, les oiseaux se battent à un moment donné. Si le chant ne suffit pas, OK, si le chant n'a pas réussi, son processus d'intimidation, mais il va y avoir des batailles en bonne et due forme. Et moi, j'ai vu à maintes reprises, pas qu'une fois, là, à maintes reprises chez moi, des moineaux notamment, s'en prendre les uns aux autres. Ils s'accrochent par les pattes, par le bec, puis ils viennent tellement fous qu'ils vont tomber. Moi, j'ai vu ça tomber à mes pieds, puis ils sont en train de se battre à mes pieds. Alors que c'est pas tout à fait le cas, normalement, hein. D'une part, on a vu d'autres choses dans les cas des rapaces, ou encore dans le cas des huards. Tout le monde connaît le chant tout à fait extraordinaire, puis la mélodie du huard, mais on sait pertinemment que durant la période d'accouplement, il y a un certain taux de mortalité chez les huards. C'est vrai, là. Et plusieurs s'entretuent pour posséder leur territoire et posséder des femelles.
Moi, j'ai passé l'été sur un lac où il y avait deux couples de huards, et la nuit, là, c'était incroyable. C'était que de la chicane entre les deux couples. Il y avait vraiment un problème, là, puis on l'entendait super fort.
Avec la voix, hein?
Oui.
Oui, c'est ça. C'est que le dépendant de la sonorité et dépendant du type de voix ou de tirade du huard, c'est dans certains cas, c'est l'intimidation. Dans d'autres cas, c'est très précis d'ailleurs. Dans certains cas, c'est votant. Dans d'autres cas, t'es entré chez nous. Ou dans d'autres cas, c'est cri pour la femelle. Et c'est dans le cas du huard, c'est très, très, devrais-je dire, très, très structuré.
Merci, Pierre. Toujours un plaisir.
Très intéressant, vraiment.
Merci.
Salut,
à la prochaine.
C'était Pierre. Yeah, oui.
Non, je pense que les huards, il y avait des problèmes de couple. C'était pas
ils
normal.
Ont, ils ont besoin de Louis Sigouin.
Si on s'aimait pour Wizzy.
C'était Pierre Gingras et son fidèle compagnon, Grigri. On est toujours 50 aujourd'hui de l'agression russe en Ukraine. Et au début de cette agression, le 24 février, le Kremlin pensait être accueilli par des Ukrainiens en liesse, heureux d'être libérés. Poutine pensait prendre Kiev, la capitale, en 3 jours ou moins. Ben, l'histoire a démontré que ça ne s'est pas passé comme ça. On va parler de tout ça avec Guillaume Sauvé, qui est spécialiste de la Russie, politologue au Centre d'études et de recherche internationale, le CERIUM de l'Université de Montréal. Professeur Sauvé, salut!
Oui, bonjour.
Donc, 50 jours aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe quand vous regardez dans le rétroviseur?
Ben, comme vous l'avez dit, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et là, quand on dit comme prévu, c'est pas juste que, de toute évidence, les attentes de Poutine étaient fondées sur de fausses informations, mais il faut même se rappeler que les services de renseignement américains, qui avaient eu raison quand ils avaient dit que la guerre s'en venait, avaient eu tort quand ils ont annoncé que Kiev allait probablement tomber en quelques jours. Donc, de toute évidence, c'est pas juste en Russie qu'on s'était trompé sur d'abord les capacités de résistance des Ukrainiens et ensuite sur, on avait sans doute un peu surestimé l'organisation de l'armée russe. Donc, clairement, un des grands objectifs de la bataille, mais c'était pas le seul et on va y revenir, mais un des grands objectifs de la guerre qui était la prise de Kiev puis la chute du régime. Et bien maintenant, de toute évidence, même la Russie reconnaît que c'est plus à l'ordre du jour parce que ça va pas marcher.
Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour désormais? Le but, c'était de prendre le pays, de prendre le contrôle, ou en tout cas, prendre le contrôle à travers un changement de régime. Ça n'arrivera pas, en tout cas, pas comme on l'escomptait. Là, les objectifs de la Russie, 50 jours plus tard, c'est quoi?
Oui, alors c'était, en fait, c'était l'autre grand objectif qui, finalement, a toujours été là, mais qui est un peu dans l'ombre de l'objectif de la prise de Kiev. Et ce premier autre objectif, c'était la conquête du Donbass. Et lui, en fait, il avait été annoncé même avant le début de l'invasion, parce que si vous vous souvenez, mais donc 3 jours avant le 24 février, le 21 février, Poutine avait fait les manchettes en annonçant qu'il reconnaissait l'indépendance des deux républiques sécessionnistes du Donbass. Le Donbass étant cette région à l'est de l'Ukraine, où il y a donc deux républiques autoproclamées, soutenu par la Russie, et Poutine avait tout de suite précisé qu'elle reconnaissait leur indépendance, non pas seulement dans le territoire qu'elles occupaient, mais dans le territoire qu'elles revendiquaient, ce qui voulait dire donc la conquête de l'ensemble du Donbass, et ça on le savait même avant le 24 février, et ça comprend notamment la ville de Mariupol.
Mais ça fait quand même quelques années que les Russes là, ont des visées sur ce territoire-là.
Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, il faut se rappeler que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en février dernier. La guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine a commencé en 2014, avec au moment d'une part de l'annexion de la Crimée, donc c'est fait sans combat, mais ensuite le début de la guerre dans le Donbass, justement, avec l'émergence de ces deux provinces sécessionnistes, dont l'existence n'est possible que parce qu'elles sont soutenues militairement par la Russie. Mais alors que la Russie, depuis 8 ans, semblait vouloir négocier le retour de ces provinces à l'intérieur de l'Ukraine pour mieux comme influencer l'Ukraine de l'intérieur. Maintenant, la Russie semble, depuis le 21 février dernier, vouloir reconnaître leur indépendance pour les soutenir et les aider à conquérir l'ensemble du Donbass.
Est-ce qu'il y a un gagnant 50 jours après?
Ben, c'est vraiment difficile de parler de gagnant. La Russie est clairement pas gagnante parce que ses attentes sont déçues. Enfin, là, quand je dis la Russie, il faut bien que je précise, là, le gouvernement de Vladimir Poutine. Parce que la Russie, comme pays elle-même, je pense, est perdante à peu près à tous les égards dans cette bataille-là. Mais le gouvernement de Vladimir Poutine peut difficilement être donné gagnant parce que la plupart des objectifs qui avaient été posés n'ont pas été atteints. Le gouvernement ukrainien, je veux dire, dans un sens, peut être gagnant dans la mesure où la Russie n'a pas atteint ses objectifs, mais étant donné les atrocités qui ont été commises sur son territoire, c'est vraiment difficile de parler de victoire. Hein? Et en plus, c'est loin d'être fini. Donc pour l'instant, non, que des perdants dans cette guerre.
OK, je lisais dans un magazine américain, The Atlantic, là, c'est sorti il y a quelques jours, c'est une analyse d'un prof de relations internationales, Elliot Cohen, qui disait qu'on entre dans la quatrième phase de la guerre et dans le moment décisif de la guerre. Sa thèse, c'est que le moment pour soutenir l'Ukraine, militairement notamment, là, c'est maintenant. Et que si on ne le fait pas là, l'Occident, on va payer un prix fort, beaucoup plus fort plus tard. Est-ce que c'est une analyse qui est partagée, ça?
Ben, je ne sais pas à quel point, ça dépend un peu de ce qu'il entend lui par la phase décisive de la guerre. Il me semble que ça a comme toujours été important de défendre l'Ukraine autant au début qu'au milieu ou à la fin. Mais ce qu'il a en tête, j'ai pas lu l'article en question, mais ce qu'il a surtout, qu'il a probablement en tête, parce que ça, c'est, je l'ai vu chez de nombreux analystes, c'est qu'effectivement, là, on est rendu dans une autre phase de la guerre qui va être plus localisée, moins, disons, répartie à travers tout le territoire. Les forces russes ont compris qu'à trop se disperser, il n'y arrive à rien. Et donc là, on assiste à une concentration des forces russes sur le Donbass, pour la conquête du Donbass. Donc, ça implique la prise de Mariupol, d'une part, et ça implique d'essayer de... Il y a deux percées là, qui sont tentées, l'une par le sud et l'autre par le nord, pour encercler les forces ukrainiennes qui défendent le reste du Donbass. Et en Russie, on parle beaucoup que Vladimir Poutine aimerait avoir une victoire décisive dans le Donbass avant la fête de la victoire, qui est un jour férié en Russie, le 9 mai. C'est sans doute l'objectif là à court terme.
Et le 9 mai, c'est une date qui est historiquement, politiquement, symboliquement très importante.
Évidemment, puisque le 9 mai, en fait, qui est célébré le 8 mai ailleurs dans le monde, mais le 9 mai dans l'espace post-soviétique, c'est la victoire sur l'Allemagne nazie. Et puisque, comme vous le savez, toute la guerre contre l'Ukraine s'est faite au nom d'une sorte de combat un peu mythologique contre des nazis qui seraient au pouvoir en Ukraine, eh bien, évidemment, s'il pouvait y avoir une victoire dans le Donbass pour la Russie, et pouvoir l'annoncer le jour de la victoire contre le nazisme, de l'anniversaire de la victoire contre le nazisme, ça serait tout un symbole, oui.
À quel moment est-ce que Poutine pourrait déclarer une victoire dans son monde parallèle où il contrôle en Russie toute l'information?
Ben justement, je pense que s'il pouvait avoir une victoire dans le Donbass, c'est-à-dire conquérir l'ensemble du territoire revendiqué par les républiques sécessionnistes, ça pourrait se présenter comme une victoire puisque c'était l'un des objectifs annoncés. Officiellement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a annoncé qu'il allait faire la guerre pour protéger les Russes du Donbass d'un génocide, le mot était déjà mentionné, mais de l'autre côté, de l'autre camp politique, d'un génocide de la part du gouvernement ukrainien. Bon, c'était un peu fantastique, c'est en fait totalement fantastique comme accusation. Mais donc, puisque ça, il y avait comme objectif, s'il réussissait à l'atteindre, ça pourrait être considéré comme une victoire. Et là, on pourrait s'attendre peut-être, non pas à la paix, mais à quelque chose comme un cessez-le-feu.
Donc, une tension permanente entre les deux pays, une fin des hostilités, ça pourrait finir comme ça.
Ouais, ben fin des hostilités, ça serait même un grand mot. Je pense que ce serait quelque chose comme un retour à la situation qu'on avait avant février, c'est-à-dire la guerre. Il y avait déjà la guerre en Ukraine, mais avec un front plutôt stabilisé. Ça, c'est un scénario optimiste. Et ça présume que la Russie réussirait à conquérir le Donbass, ce qui n'est pas dit.
OK. Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui attend la Russie dans les prochaines années? Parce que là, il y a des sanctions, il y a des débats sur l'efficacité des sanctions, mais clairement, la Russie va être un pays très changé si on compare avant le 24 février. Qu'est-ce que ça annonce pour le monde?
Pour le monde entier ou pour la Russie? Pour le monde entier, il y a beaucoup de choses que ça change, en fait. Il y a comme ça part dans toutes les directions. On peut mentionner, par exemple, le renforcement de l'OTAN en Europe, qui est comme une conséquence clairement non planifiée de la part de Vladimir Poutine. En fait, lui, son but, c'était de freiner l'OTAN. Au contraire, ça va stimuler l'importance de l'OTAN. On parle de la Suède qui rejoindrait l'OTAN, peut-être la Finlande. Donc, un renforcement de l'OTAN, une plus grande unanimité, même en Europe, ce qui est assez rare, là, au sein de l'Union européenne, dans un front anti-russe. Donc ça sera un changement important. Ça pourrait, dans un sens même, affaiblir la Chine, parce que la Chine verrait un de ses principaux alliés grandement affaibli, donc la Russie. Il y a toutes sortes de modifications. On parle aussi, par exemple, ça pourrait accélérer la transition énergétique en Europe vers des énergies renouvelables, parce que maintenant, il y a un incitatif de plus à se retirer, par exemple, des approvisionnements en gaz naturel. Mais tout ça, c'est évidemment, on est dans le long terme. On est comme dans la projection, dans les transformations des rapports de force, principalement en Europe, évidemment.
C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
À la prochaine. C'était Guillaume Sauvé, spécialiste de la Russie, politologue au CERIUM, le Centre de recherche internationale de l'Université de Montréal.
C'est 23.